je sais plus, tu m'as fait belle.
Oui, c'est pour la radio. Hein.
Ah bon, alors.
Les rencontres d'Hélios,
l'émission de l'hôpital de jour de la clinique de Sommery.
Les rencontres d'Hélios
avec Studio Zef.
Je vais bien, tout va bien.
Bah oui, c'est mieux. On n'arrive pas à se comprendre du coup. C'est mieux qu'elle y aille. On peut avancer un peu si vous voulez dans la partie jeu, il y aura aussi d'autres.
Par rapport à ce logo, on retrouve partout.
Effectivement.
Bonhomme qui tire la langue.
Très bonne question. Effectivement, vous retrouvez ici même, alors un peu comme dans la première affiche dans l'entrée. Alors vous l'avez vu sur nous sur les murs, dans nos documents. Voilà, j'aime bien montrer celui-là parce que c'est une variante. Il y a des choses écrites sur la langue et le personnage louche. Alors, ce symbole, effectivement, ce logo, c'est un logo puisque c'est effectivement le logo de Fluxus. En fait, cette image ainsi que le nom Fluxus, c'est deux éléments qui ont été choisis, alors je dis bien choisis, pas inventés, par Georges Masunas, donc qui est celui qui a initié Fluxus, comme je vous l'expliquais. Alors le nom, je vous l'ai déjà un petit peu évoqué, donc il a choisi Fluxus pour son étymologie, le fait que ça renvoie à ce qui est vivant, en mouvement, donc renvoie à une vision vivante de l'art désacralisé. Et puis cette image, donc ce personnage qui tire la langue, qui a une couronne et un collier, en fait, au départ, c'est une représentation d'une divinité aztèque qu'on voit, qu'on peut trouver, alors que lui a vu sur une stèle en pierre, c'est la partie centrale, c'est comme une grande roue, il y a tout un tas d'anneaux avec tout un tas de symboles, et au centre, il y a cette tête, cette divinité. Et donc, en fait, il voit cette image et il la reprend, il la transforme, il la redessine pour accentuer certains traits, lui donner un aspect assez humoristique, enfantin. Donc, comme je vous disais, parfois il y a ces petites variantes où vraiment il fait loucher le personnage. Là, c'était une version, il y a l'affiche à l'entrée, mais c'était pour annoncer un festival ou un concert. Donc il y a les noms des artistes participants qui sont marqués sur la langue. Voilà, il y a des petites nuances. Mais en tout cas, il choisit vraiment de se doter, entre guillemets, d'un... Il était graphiste aussi, hein, entre autres, donc tout l'aspect graphiste sur ces objets, c'est lui qui le supervisait, de dire, cette image, c'est comme s'il y avait écrit Fluxus, c'est nous. Et évidemment, voir un personnage qui tire la langue, qui louche, ça renvoie à quelque chose d'assez drôle, humoristique, enfantin, qui désacralise aussi le rapport à l'art, le fait de ne pas se prendre au sérieux, qui est un petit peu provocateur, mais voilà, tirer la langue, faire une grimace comme le font les enfants, c'est vraiment cette idée-là. Et donc c'est une manière de dire ça, c'est nous, c'est notre état d'esprit, c'est comme ça qu'il faut aborder les choses avec nous. Et là on est justement dans la salle dédiée à l'art amusement ou art jeu, art distraction, art divertissement, on peut le dire de plein de manières, qui est vraiment, qui synthétise cet état d'esprit Fluxus. Je vous disais, Fluxus, ce n'est pas un mouvement, un courant artistique au sens classique, un terme que Ben utilisait beaucoup, mais d'autres aussi, d'autres artistes. Fluxus, c'est avant tout un état d'esprit. Voilà, une manière d'envisager le rapport entre l'art et la vie. Et quand on nous demande, ou quand on demandait à Ben ou d'autres si Fluxus existe encore, la réponse faite était souvent la période historique, c'est sûr, elle est révolue, c'est les années 60-70. Mais en tout cas, si on est dans cette démarche, dans cet état d'esprit, dans ce questionnement autour de l'art et de la vie, du rapport à la créativité, à la vie quotidienne, etc., on est dans l'esprit Fluxus. Donc c'était quelque chose que Ben, notamment, comme on voit beaucoup de ses œuvres ici, mettait en avant. Et la grande œuvre qui est au fond, cette grande caisse qui normalement sert à protéger, à transporter des grands tableaux, qui est remplie d'objets chers à Ben, c'est une œuvre qui s'appelle In the Spirit of Fluxus, dans l'esprit de Fluxus. Voilà.
Et la fameuse table de ping-pong. Ouais.
Voilà, on vous a parlé pas mal de fois de ping-pong depuis le début. Alors justement, donc voilà, là on est dans une salle. Alors il y a d'autres œuvres un peu plus loin dans le parcours qui pourraient tout à fait avoir leur place ici, dans cette section dédiée à l'art amusement. Donc après les débuts très liés à des expérimentations sonores, musicales, enfin comme je vous disais, les choses s'ouvrent. Et le rapport au jeu d'enfant, au jeu de société, au sport... va être très présent. Et globalement, j'ai déjà employé ce terme qui est très important, au détournement d'objets, de formes, de thématiques, de sports, etc. Et en fait, on le retrouve même dans la manière de nommer les œuvres ou les formes qu'il propose. C'est-à-dire que là, en particulier dans cette salle, vous avez des Fluxbox, des boîtes Fluxus. Vous avez une œuvre qui s'appelle Flux Ping Pong, qui fait partie des Flux Sports. On va parler de flux film, de flux game, flux kit, etc., etc. Donc c'est une manière de dire c'est des films, des jeux, du sport, etc. Version fluxus, fluxisé, donc transformé. Donc ça veut dire qu'on part toujours de quelque chose connu de la vie quotidienne, mais décalé, détourné à la manière de fluxus. Et donc à nouveau, pour eux, c'était cette, suivant la, l'impulsion de Georges Massionas, cette volonté de brouiller la frontière entre la vie quotidienne et l'art, plutôt la... créativité, la création artistique, et finalement, je dis souvent de distiller un peu de formes artistiques, poétiques dans le champ de la vie quotidienne et d'utiliser des choses très concrètes dans la création artistique. Voilà, c'est ce va-et-vient et ce mélange permanent entre les deux. Et donc effectivement, cette œuvre, Flux Ping Pong, qui à l'origine est une œuvre de Georges Massionas, justement, qui date de 1976. Donc là, elle n'est pas présentée tout à fait dans son état d'origine. Il y a une partie des raquettes détournées, donc on peut utiliser, hein, il y a une balle à disposition, on peut jouer avec ces raquettes. Il y a une partie des raquettes d'origine. Alors, toutes les raquettes d'origine de 1976 sont celles qui sont plus anciennes, plus abîmées, et qui, pour la plupart, possède cet adhésif bleu sur le manche de la raquette. Et puis, je vous montre ces deux-là, mais il y a d'autres exemples. En fait, il y a beaucoup de doublons. Donc, c'est une œuvre qui est dans la collection de Ben Vautier. Donc, il avait ces quelques raquettes d'origine. Et pour la réactivation de cette pièce pour la Fondation du Doute, en 2013, il a souhaité refaire d'autres raquettes. Donc, il y a des raquettes qui ont été doublées, vous voyez, donc celle-ci avec les clous. Il y a celle de 1976 et celle de 2013. Et c'est le cas pour... par exemple, ces deux-là, ces raquettes recouvertes de mousse, donc on n'entend pas la balle rebondir dessus. Voilà, il y a celle de 1976 et celle de 2013. Et en fait, à l'origine, donc, les raquettes, donc, c'est une proposition de Georges Massionas, mais dès le départ, hein, je vous parlais de l'importance du collectif, beaucoup d'artistes ont participé et ont créé des raquettes. Donc on ne sait pas quel artiste a fait quelle raquette. Et surtout... il existe des photos dans les archives de la table d'origine qui n'existe plus. Georges Massionas avait transformé, là, nous, on a une table de ping-pong, de tennis de table tout à fait classique, mais la table que lui avait fabriquée était dans le même esprit de détournement que les raquettes, c'est-à-dire que d'un côté, elle était percée d'un grand trou, un rond, et de l'autre côté, il avait coupé en deux le plateau et mis une charnière pour la relever, faire comme une petite pyramide. Voilà, pour venir compliquer encore la partie de tennis de table. Et donc, c'est cette idée qu'on retrouve avec plein d'objets, plein d'exemples. C'est l'idée de dire, tout le monde sait ce que c'est que le tennis de table, a déjà au moins joué une fois, et qu'on soit doué ou pas, de toute façon, cette version fluxisée est différente, puisque chaque objet, chaque raquette transforme la gestuelle, la manière dont on va manipuler la raquette. On ne va pas forcément pouvoir anticiper la trajectoire de la balle, donc ça va détourner à nouveau cette pratique sportive au départ, comme par exemple la raquette avec le poisson là-bas. Voilà. Qui va être pratique à tenir ici, mais du coup n'est pas très pratique pour jouer. Inversement, si on la tient là, c'est moins. Voilà. Et c'est aussi, il y a d'autres œuvres comme ça, mais celle-ci, la première qu'on découvre, qui synthétise beaucoup de choses de Fluxus sous un aspect très ludique, hein, et c'est le but ici, l'idée de dire, ces artistes, ce qu'ils ont beaucoup fait, c'est de s'inspirer, de copier, de détourner des choses de la vie quotidienne, de faire leurs propositions, mais de nous dire aussi à nous, allez-y aussi, vous pouvez aussi, évidemment, tout le monde peut le faire. Donc effectivement, on peut de manière infinie inventer, transformer une nouvelle raquette de tennis de table, ou pareil avec d'autres jeux qu'on a un petit peu plus loin, et de dire chacun peut s'en emparer à sa manière. Et donc ça rejoint une phrase qu'on retrouve chez plusieurs artistes, et notamment chez Ben, quand il disait « soyons tous artistes », ou « tout le monde est artiste ». On retrouve cette notion chez Fluxus. Donc c'est pas une manière de dire que tout le monde est peintre ou photographe, etc., mais c'est une manière de dire que tout le monde a en tout cas la capacité de créer des choses, d'inventer des choses dans sa vie, d'imaginer, de faire passer des idées, des messages, et c'est en ça que Ben et les autres disaient tout le monde est artiste, tout le monde peut créer, inventer, et donc on rejoint ce que je vous expliquais avec le nom Fondation du Doute, créer c'est douter c'est créer, etc. Donc on est toujours dans cette idée de la création plus ou moins permanente.
Merci.
Si vous voulez essayer, profitez-en. Si vous voulez enregistrer le bruit, je peux faire une partie avec quelqu'un. Si vous voulez essayer, la balle est sur le côté.
Mathis, tu veux essayer?
Si vous voulez enregistrer le son des balles, alors si elle n'est pas là, elle est de côté. Il n'y en a qu'une, on n'en laisse qu'une à disposition.
Très pratique pour jouer.
Voilà, donc il n'y a que les raquettes avec les clous qu'on n'utilise pas parce que ça abîme.
Qui c'est qui joue?
Donc on ne va pas utiliser celle-ci parce que pour le coup, quand ça remonte, c'est silencieux.
C'est
très drôle. Super. Voilà, alors je vais prendre celle qui va un peu avec.
Ah ouais, c'est...
Je vais enlever le poisson. Pas compliqué encore plus.
Mathis, tu sais jouer?
Ouais, oui. De toute façon, qu'on sache jouer ou pas...
C'est vraiment à jouer. Pas surtout avec ça.
Celle-ci, ouais. En plus, bon, à la force, elle s'abîme, il n'y a plus le revêtement. Mais... Je ne sais pas, je
Ah, c'est la faute de la raquette.
On peut faire les essais avec différentes raquettes.
C'était la mousse.
Voilà, avec la mousse, on entend tous les bruits. Ce qui est assez drôle, et ça rejoint le caractère sonore aussi. De...
Ça ne fait pas de bruit, c'est perturbant.
Ça.
Et tu peux lancer avec, quoi.
Ah ouais. Je vais prendre...
Ça tape quand même, hein.
Ça tape
le... C'est quand même... Je pensais que ça allait
tirer. Il y a un autre exemple. Alors, toutes celles-ci, elles sont avec une vraie raquette transformée. Gilles vous disait qu'une poêle à frire.
Ah oui.
Justement, on a pu... Il y a ça, par exemple, un accessoire de... de cuisine ou autre. Ouais. On a une avec une... avec une petite passoire qui fait du bruit métallique, mais pourquoi on l'a enlevé, je sais plus. Il y en a qui s'abîment à force.
Voilà.
Celle-ci, voilà, qui n'est pas très évidente. Donc ça, c'est typiquement une pièce qui est neuve pendant notamment la saison touristique, enfin quand les gens viennent en famille, voilà, avec les enfants, les gens ils passent beaucoup de temps. Oui, elle est, oui, non, là-bas, c'est bon. Il n'y a pas de dorme.
Oui, donc.
Elle est très sollicitée.
Ça plaît beaucoup.
Voilà. Pour ce temps qu'on est dans le son,
oui.
Vous active. Ça s'arrête tout seul, donc ça va durer un peu.
Marion.
Alors, on
t'as l'air intéressé pour faire du manège.
On ne peut pas monter dessus parce que sinon on marche sur la main. Mais en soi, il est costaud, il supporterait toujours le poids d'un
enfant.
Le problème, c'est voilà. S'il n'y avait pas les, s'il y avait pas les peintures, je pense qu'on pourrait faire.
Oh là-bas, le chapeau melon.
Ah oui, alors là c'est un jeu d'échecs, là il y a plein de jeux, alors ces boîtes elles contiennent plein de choses et dont des jeux, elles étaient faites en plein d'exemplaires, et là-bas c'est des jeux d'échecs, des jeux de société transformés, des jeux de cubes, même en bas où ça ressemble pas à un jeu d'échecs, en fait c'est un jeu d'échecs mais on reconnaît la différence entre les pions avec des odeurs, et bien en fait il y a les deux camps, mais dans chaque camp pour chaque joueur. En fait, il faut ouvrir, c'est des flacons, il y avait des odeurs, il faut mémoriser les odeurs. Donc, ça, c'est le travail d'une artiste japonaise, Takako Saito. Et elle a beaucoup, et d'autres artistes du Japon aussi. Il y a beaucoup de pièces qui travaillent aussi autour du sensoriel en général. Donc le toucher, les odeurs, la vue, le goût. Voilà, il y a cet aspect aussi un peu multisensoriel qui est beaucoup développé chez Fluxus et chez certains artistes en particulier.
Merci. Après,
ça va être plus visuel, mais il y a des petites blagues.
On a le coca qui vole.
Voilà, donc ça c'est le genre d'œuvre ouais. Avec les enfants, enfin, voilà, on peut faire ça pendant des heures, ça marche toujours, il y a toujours petit tour de magie.
Et la Joconde qui est...
Voilà, qui a plein d'histoires et qui raconte pas mal de choses, les jeux de mots, donc là on le voit pas forcément selon l'angle, mais l'art est une farce en fait, vous avez la suite du titre qui est en noir sur noir en bas, entre parenthèses, et attrape. Alors, chez Ben il y avait aussi bien... Donc évidemment, ces tableaux écriture, comme donc le mur des mots à l'extérieur, ce sont des reproductions de tableaux écriture, les originaux étant des peintures sur toile, peintures sur bois. Alors il y a le jeu avec les mots, le jeu sur les mots, mais il y avait toujours chez Ben un peu un double sens qu'on retrouve même sur tous les mots, toutes les petites allusions qu'il y a sur ce Donald, ce manège pour enfants, qui est transformé, qui est détourné. Il y a toujours le jeu de mots ou la petite blague premier degré, on va dire premier abord, mais en fait, c'est aussi toujours, en deuxième lecture, une référence à l'art, à l'histoire de l'art. Donc là, c'est Dada, parce qu'on monte sur le canard à Dada comme un cheval, mais c'est Dada, le mouvement artistique, etc. Donc il y a toujours des blagues comme ça, des jeux de mots, qui sont à double lecture. Et puis chez Ben, il y avait aussi évidemment l'importance accordée aux objets en particulier d'enfants, aux jeux, et surtout le côté brocanteur, le côté récupération d'objets. Un de ses grands-pères était brocanteur, enfin, il a baigné aussi dans cet amour des objets dès l'enfance, et ça se voit dans son travail. Et quand il venait à Blois, quand il venait préparer une exposition à la Fondation du Doute, à part les choses qui étaient déjà prêtes ou qu'il avait en tête, la réalisation de tableaux écriture ou de certains objets, il fallait aller d'abord dans des magasins comme Emmaüs, des ressourceries, etc., où il allait faire le plein d'objets qui l'inspiraient, puis ensuite il voyait comment il les mettait en scène dans son travail. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment avec ce landau, avec cette grande pièce. Alors il y a plein de choses qui ne fonctionnent plus, mais il y a encore un petit objet sonore qui fonctionne. Je le fais écouter aussi. Okay. Objet bien connu. Voilà, donc le lien avec l'enfance hein, notamment est quand même très présent. Mais voilà, il y a plein de tout ça, ça ne fonctionne plus depuis longtemps.
Une bière pour oublier la guerre.
Choses. Alors ici, si on lit tout, on peut y passer du temps, ne serait-ce qu'à l'extérieur devant le mur des mots. Ouais, il y a 313 tableaux d'écriture. Ouais. Et je vous parlais tout à l'heure de l'exposition qu'on va consacrer à Ben à l'automne. L'automne sera aussi l'occasion, sera un double hommage, de célébrer les 30 ans du mur des mots qui a été inauguré en octobre 1995. Voilà.
Okay. Une espèce de critique aussi de la société de consommation.
Oui, alors pas tant sur la société de consommation en elle-même. Ça, c'est des choses, alors en termes d'époque, qu'on va trouver plus du côté du pop art, par exemple, dès les années 50. Mais c'est plus l'idée d'utiliser ce que la vie quotidienne nous offre. D'accord. Donc aussi de créer, alors un petit peu, par exemple avec les machines sonores qu'on a vues en début de parcours, c'est aussi pour Fluxus, c'était... Alors, là, ce serait décontextualisé de parler aussi des notions de recyclage, de recycler des matériaux, puisqu'on n'est pas du tout dans cette époque-là, mais plutôt de dire que des objets existent, des matériaux existent, d'utiliser ce qu'on a sous la main pour le transformer et créer avec. Voilà, donc ça, effectivement, c'est plus en ça que la présence d'objets du quotidien est assez présente. Mais il n'y a pas vraiment cette dimension de critique de la société de consommation chez Fluxus, même si on va en voir des traces, notamment avec l'œuvre de Spoerry, juste après. Je fais encore un petit peu de son avec cette machine de Ben, alors qui date de 1979, mais qui était une manière de prédire votre avenir. Donc c'était aussi de prédire l'an 2000. donc pareil avec cet objet qui au départ devait être un petit distributeur d'objets, de bonbons peut-être. On mettait une petite pièce et on récupérait le petit cadeau. Et donc il a transformé, c'est un petit peu comme si on se faisait prédire l'avenir, avec la lecture des cartes du tarot par exemple. Voilà, donc on lit, alors, un petit décalage. La carte qui sort là, par exemple, c'est beaucoup d'argent. Et ensuite, il y a le jour favorable, le chiffre favorable, la signification de la carte. Donc là, si c'est sur la bonne ligne, oui, c'est ça. C'est un petit peu décalé. La belle nous disait quoi ? Une belle femme cherchera à vous séduire et vous ruinera, évidemment. Deuxième exemple, voyage lointain. Et la signification de la carte nous dit, vous êtes entouré d'hypocrites, faites attention, etc. Donc il y a tout un tas de cartes comme ça. Et notamment, donc voilà, on est en 79, à un moment donné, il prédit quelque chose pour 1994.
D'accord.
Donc là, ça fait partie des pièces que les visiteurs peuvent activer librement. Donc il y a soit les choses comme la table de ping-pong hein, que les gens peuvent toucher, voilà, on laisse faire, c'est fait pour. Et puis les pièces un petit peu plus fragiles comme les machines sonores que nous, on active pour les gens.
C'est quoi ça, mettez votre index sur
le... Alors là, en fait, il faut d'abord allumer, c'est pour une personne à la fois. Et effectivement, une fois que les lentilles sont allumées, vous suivez l'indication, il faut mettre le doigt ici et il faut regarder dans les lentilles, c'est comme des petites jumelles.
Vas-y.
Bon, l'image, sont des,
t'as peur, hein,
comme
ça.
Des petites diapositives, c'est assez abîmé, l'image est de moins en moins nette, mais on peut encore voir. Alors, je parlais de jeu de mots avec Ben, mais il y a aussi beaucoup de jeux entre les images et les objets, comme par exemple ouvrir, fermer avec la boîte, voilà, c'est un jeu entre l'action qu'on fait et ce qui est écrit. Là, en fait, c'est tout simplement le geste qu'on fait avec le doigt. Le détail de l'image, c'est un détail d'un tableau de Léonard de Vinci, une sainte famille, où devant, Saint Jean-Baptiste montre du doigt la Sainte Vierge. Et donc, on fait le même geste et il regarde le spectateur. Et c'est une représentation assez énigmatique. On ne sait pas pourquoi Saint Jean-Baptiste fait ce geste-là et regarde en souriant comme ça le spectateur. Donc là, c'est à nouveau, de manière très anecdotique, de jouer entre le contenu d'une image et un geste. Voilà, il y a beaucoup d'objets comme ça interactifs de Fluxus dans cet état d'esprit-là. Ça, c'est le dernier artiste en date qui est décédé, Daniel Spoerry. Il est mort au mois de novembre 2024, à l'âge de 94 ans. Et donc, juste un mot, parce que c'est un bon exemple par rapport à tout ce que je vous ai dit sur comment est né Fluxus, comment s'organiser, entre guillemets, ce groupe. Daniel Spoerry, c'est typiquement l'exemple d'un artiste qui a fait partie de Fluxus. Il a participé à des événements, des festivals. C'est notamment par son intermédiaire que Ben va faire la connaissance de Georges Massunas et va rejoindre Fluxus, même s'il travaillait déjà de son côté. Mais Daniel Spoerry, c'est aussi quelqu'un qui a eu sa pratique individuelle en tant qu'artiste très, très, très importante. Il faisait partie d'un autre groupe d'artistes, d'un mouvement en France qu'on a appelé le Nouveau Réalisme ou les Nouveaux Réalistes, avec des artistes, beaucoup dans le sud, hein, comme Ben, autour de Nice, hein, c'était très, très foisonnant, avec des artistes assez connus, comme Yves Klein, Niki de Saint-Phalle, César, les fameuses statuettes hein, des Césars, les compressions de César, par exemple, Armand, Christo, Jeanne-Claude, Niki de Saint-Phalle, etc. Des artistes qui travaillaient à partir d'objets du réel, hein, donc on est à la même époque que Fluxus, hein, c'est les années 60. Et puis, surtout, Daniel Spoerry, c'est un artiste qui a inventé sa propre manière de travailler, son propre outil de travail, les tableaux-pièges, donc vous en avez 13 dans la salle, et qui a inventé un courant artistique qu'il a appelé le Eat Art, Eat, E-A-T, donc qui a exploré la relation entre l'art et la nourriture. Voilà, donc ça résume un peu comment fonctionnait Fluxus. Donc des artistes qui faisaient partie de ce groupe, mais qui individuellement ont inventé des nouvelles formes, des nouvelles pratiques. Donc c'est une très bonne manière pour résumer ça avec Daniel Spoerry. Il y en a d'autres, mais voilà, avec cette œuvre qui est très, très conséquente. Alors on parlait de société de consommation. Évidemment, aujourd'hui, on le voit comme ça parce que là, on est en 75. C'est une œuvre qui date de 75. Et donc c'est des repas hein, qui ont vraiment été consommés. Vous voyez les gens en train de manger. Daniel Spoerry est debout en blanc, en bas. Évidemment qu'on va reconnaître le design d'assiettes des années 70, beaucoup d'assiettes de couverts en plastique, donc des choses qui sont liées à une époque. Et évidemment, avec le recul aujourd'hui, on regarde ça différemment, mais c'est aussi le témoignage, une espèce un peu d'archéologie d'une époque.
Beaucoup de cigarettes aussi.
Oui, beaucoup de cigarettes. Donc c'est une œuvre voilà, qui est évidemment très fragile, c'est la plus fragile de la collection, mais qui est d'autant plus surveillée et... restaurer, dépoussiérer, nettoyer régulièrement. Ça, c'est un espace qui n'existait pas dans la version initiale quand vous étiez venu. Il y a toujours, alors maintenant il est en fin de visite, l'espace d'atelier de création de mail art, d'art postal, on va le voir, je vais vous en parler. Mais voilà, là on a mis parcours, parce qu'après on descend au premier étage, on a fait la moitié du parcours de collection permanente. Et donc il y a cet espace de jeu dans l'esprit de Fluxus hein, et de création d'un petit carnet, le Fluxnote. Donc en deux temps, hein, d'abord on va, voilà, vous pouvez tourner la roue. Et en fait, pour la tourner un peu fort, elle accroche un peu. Et donc ensuite, selon les cases, on tombe, enfin on gagne six cartes qui sont déterminées. En fait, ça reprend le principe. Je vous disais, cette tête, hein, elle est faite sur le motif aztèque, au départ, elle est au centre d'une très grande roue. Ce qui est un peu réévoqué là-bas, on la retrouve au centre hein, sur l'affiche. Et donc, en fait, vous gagnez dans la case 22, dans la case 14, là il y a deux images, dans la case 5. En fait, voilà, c'est les numéros qui sont indiqués ici. Qui font que vous repartez avec 6 images, des mots, des phrases qui viennent d'œuvres de la collection liées à Fluxus. Voilà, comme cette phrase de Ben, qui décide de ce qui est beau. Et des images, et ensuite avec vos 6 petites images, vous vous installez à la table et vous avez ce petit carnet à fabriquer, un modèle fini, qu'on a appelé le Fluxnote. Vous avez le mode d'emploi, donc il est pré-découpé. Voilà. On fait le petit pliage, qui est déjà un exercice en soi, et ensuite vous avez du matériel à disposition, crayon, feutre, colle, ciseaux, plus les petites cartes qui peuvent venir composer le petit carnet, les gens peuvent repartir avec. Voilà. Donc ça fait, là c'est plus un espace d'atelier à destination des publics individuels, ouais, c'est pour un petit nombre de personnes. Donc évidemment les familles passent beaucoup de temps, les enfants, mais les adultes aussi, bien sûr. C'est une vitrine qui n'existait pas non plus, qui est dédiée, en fait c'est une carte blanche à un lieu, qui est un lieu avec qui on travaille en partenariat depuis 2019, qui est le Centre des livres d'artistes, qui est dans le Limousin, dans la Haute-Vienne, le CDLA. Donc les livres d'artistes, ce sont des livres créés par les artistes, alors des livres au sens large, là c'est un petit peu différent dans la vitrine en cours, des documents, des flyers, des affiches, des livres, comme nous on a dans les livres historiques, qui vont contenir des objets, des choses comme ça. Et donc ce lieu est une collection de livres d'artistes, la troisième plus grande collection en France, et depuis quelques années, voilà, ils nous prêtent des documents pour des expositions, et depuis le réaménagement de la collection permanente, on dédie cette vitrine au Centre des livres d'artistes, qui nous fait une sélection à peu près calée sur les dates de nos expositions temporaires. Donc ça peut être un complément autour de l'exposition temporaire. Là, actuellement, c'est une vitrine hommage à Daniel Spoerry, dont on vient de parler, qui donc est décédé en novembre. Et donc là, c'est une sélection de documents, de livres sur lui ou de lui, autour de son travail. Voilà, le journal gastronomique, par exemple, on en parlait à l'instant. Donc voilà, donc c'est une sorte de mini-exposition temporaire dans l'espace permanent. Par ici, donc là vous allez reconnaître une vue de Blois. L'escalier de Nipapin. Donc là on est en 2017. En fait, alors vous avez peut-être vu les marches de l'escalier de Nipapin qui sont de temps en temps recouvertes, enfin les contre-marches, hein, la verticale, parce que si on est en haut, on ne voit absolument rien. Il n'y a rien sur les marches. Historiquement, il y avait déjà sur cet escalier la reproduction de logos d'affiches de festivals comme BD Boom ou Les Rendez-vous de l'Histoire, mais c'était juste une partie de l'escalier. Et pour la première fois en 2017, donc quand on a accueilli Geoffrey Hendrix, donc un des artistes Fluxus, qui est décédé depuis, qui a créé une exposition, et on a proposé d'agrandir, de reproduire le motif d'une de ses œuvres. Je vais vous la montrer, elle est toute petite au départ, c'est une aquarelle, sur l'intégralité de l'escalier. Et donc ça a été réalisé, donc c'est en lien avec c'est interne à la ville de Blois, hein, c'est donc avec le service communication, et puis les services qui se chargent sont des autocollants. Alors l'escalier, il est classé, bien évidemment, on ne peut pas l'abîmer, etc. Donc c'est un système particulier de collage à chaud, mais pareil pour les retirer. Et puis le médaillon central, l'aménagement floral est réalisé par nos collègues du service parc et jardin, donc avec une sélection de fleurs qui est toujours en écho à la gamme chromatique voilà, de l'œuvre qui est reproduite. Et depuis, donc, il y a eu différentes choses, notamment pour les 20 ans de la Maison de la Magie ou d'autres événements. Voilà, en tout cas, depuis maintenant, l'escalier est entièrement recouvert. Et pour la réouverture en 2022 et les 60 ans de Fluxus, c'était tout un tas de motifs en noir et blanc, de mots autour de Fluxus et de la Fondation du Doute, dans l'esprit graphique des objets que vous pouvez voir même sur les affiches. Et les fleurs sur le médaillon ici, c'était une reproduction de la tête Fluxus qui tire la langue. Ils ont sélectionné des fleurs noires ou très très foncées pour reproduire justement cette tête en fleurs. C'était très, très joli.
Vous avez eu d'autres occasions d'être représenté
Alors nous, il y a eu 2017 et puis donc 2022, comme je disais à l'instant. Et sinon, après, ça a été donc la Maison de la Magie, donc toujours les rendez-vous de l'histoire ou le festival BD Boom. Et puis pour des événements directement aussi organisés par la ville de Blois, par la communication ou d'autres choses.
Il y avait le musée de l'objet aussi, c'est ça?
Alors ici, dans ici, l'espace actuel de la Fondation.
Il y a eu une occasion
Non, là c'est vraiment depuis...
C'est plus récent.
2017, oui, tout à fait. Alors, les affiches des rendez-vous d'histoire ou de BD Boom, ça se faisait avant la Fondation du Doute, mais je ne sais plus exactement depuis quelle année.
Thank you.
là, voilà, ça arrive. On change d'univers et on est dans la salle qui présente en grande majorité cette forme qui est l'art vidéo, dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, qui a été inventé par un artiste coréen, Namjoon Paik, qui a été le premier au début des années 1960 à utiliser vraiment, faut le voir comme ça, les nouvelles technologies de l'époque, qui donc étaient la télévision, la vidéo, les premières caméras aussi individuelles, créées par Sony, dont il s'est équipé notamment, alors qui paraissent très grosses aujourd'hui, qui étaient évidemment révolutionnaires pour l'époque.
C'est du cathodique.
Oui, voilà. Alors, ce sont là, donc il y a cette œuvre-là, il y a celle-ci. L'œuvre qui est là, donc qui est présentée en fonctionnement sur la vidéo, c'est une japonaise qui l'a réalisée, Shigeko Kubota. Donc, il y a un petit écran aussi avec une petite vidéo, voilà. Qu'on voit sur la télé. Et Namjoon Paik et Shigeko Kubota étaient mariés. Et ils ont ensemble aussi travaillé, créé des œuvres aussi ensemble autour de l'art vidéo. Donc vraiment, c'est. D'autres artistes de l'époque, Fluxus d'ailleurs, ont travaillé avec l'écran de télévision ou avec la vidéo de manière différente. En tout cas, c'est vraiment Namjoon Paik qui a créé ce terme vidéo art, art vidéo. A défini et qu'on emploie toujours aujourd'hui. Alors bien évidemment, ça a évolué, ça évolue en fonction des moyens technologiques et aujourd'hui on parle aussi d'art numérique. Mais en tout cas, voilà, le pionnier est cet artiste. Donc c'est un des très bons exemples, voilà, comme je disais tout à l'heure en haut, comment Fluxus a initié de nouvelles formes et qui ont évolué, qui sont toujours pratiquées aujourd'hui. Alors, là, c'est une section dédiée à l'éphémérité, alors par rapport à certaines approches plus poétique ou différente, et aussi une salle conçue aussi pour pouvoir de temps en temps évoluer, que les œuvres présentées changent. Alors on retrouve, voilà, l'œuvre qui était reproduite dans l'escalier de Denis Papin de Geoffrey Hendrick, c'est celle-ci. Donc par rapport à la forme de l'escalier. Oui, réadapté, mais déjà une anamorphose, voilà. Et donc tout ça a été refait aussi, adapté à la forme de l'escalier. En termes encore d'interactivité et notamment d'œuvres sonores, là il y a beaucoup d'œuvres d'une artiste américaine qui s'appelle Alison Knowles, qui a travaillé différentes formes, beaucoup autour d'objets trouvés au hasard. Elle a travaillé autour de la nourriture et le haricot est un peu le fil rouge de son travail. On en trouve ici. Ça, c'est un grand livre, c'est comme les pages d'un livre, cette œuvre, mais qui n'est pas incomplété. Au début, il y avait 9 pages, nous, on n'en a que 3. Donc, vous voyez, là, ça contient, ce petit tiroir, il contient des haricots. Il y a une petite plaque qui dit en anglais un mélange de haricots et d'idées, puisqu'il y a des petits mots. Donc, cette idée que les idées peuvent germer dans notre tête comme les haricots germent. On retrouve des haricots en train de germer dans les assiettes. Donc, on en retrouve de différentes manières. L'objet qui est sous vitrine ici, rond, en fait, contient plein de haricots secs comme ça, et donc quand on le manipule, ça fait vraiment beaucoup de bruit, un peu comme l'orage, un peu comme un bâton de pluie. Et là, le bac rempli de pois chiches qui est par terre, c'est une réadaptation d'une de ses œuvres qui a été faite pour une exposition autour de Fluxus il y a quelques années. Une œuvre qui, au départ, s'appelait, en anglais, le titre voulait dire le jardin de haricots, et c'est devenu le jardin de pois chiches, et on l'a réadapté là pour la collection permanente. Donc vous pouvez soit ratisser, c'est un peu comme un grand jardin zen, ratisser les pois chiches, vous pouvez plonger les mains. Donc ça fait du son aussi, ça masse les mains, ça fait les mains douces. Et vous pouvez aussi, il y a un petit banc à côté, si vous avez envie, vous pouvez vous déchausser, et pieds nus ou en chaussettes, on peut marcher aussi dans les pois chiches. Et là, ça fait un massage. Aussi. Vous pouvez, du moins que vous enlevez les chaussures, vous pouvez... le terrain est praticable. Donc en termes de son, en tout cas...
Un petit banc de pois chiches.
Si on ratisse, ça fait ça.
Un petit plongeon pour avoir la peau douce.
Bon, toujours après, je lave les mains et c'est beaucoup, beaucoup manipulé, mais en tout cas, les pois chiches, là, c'est une petite pellicule. Donc, tu parlais des enfants au début, donc par exemple, avec les tout petits, les maternelles, les CP, on se met tout autour. Donc là, voilà, c'est une expérience sensorielle qui est très, très chouette à faire avec les enfants, de faire le moins de bruit possible. C'est plus de bruit possible, évidemment, pour se défouler. Voilà, les pois chiches se baladent un petit peu
c'est ça, je pense que...
dans la salle, jusque dehors. Alors, si on continue sur le son, je vais vous activer cette œuvre-là. Le son est très fort. Et c'est un peu comme le manège de Ben, ça s'arrête tout seul. Ça dure à peu près une minute. Donc, pour cette partie-là. Voilà. Présentée différemment dans le premier accrochage. Elle n'est pas présentée intégralement, il y a toute une partie qu'on a enlevée et une partie qu'avant on ne présentait pas, cette partie-là. Donc elle est dans cet espace, elle se poursuit dans le couloir et on l'a présentée une fois intégralement en 2019. Elle a fait l'objet d'une exposition dans le pavillon. Justement là, on avait l'espace où elle a été présentée intégralement. Donc, c'est une œuvre qui est très dense, qui a plein de références, etc. Et qui a concrètement, justement pendant les travaux chantiers en 21-22, on a travaillé en partenariat avec l'école d'art de Tours, qui a une section conservation et restauration des biens culturels, où intervient notamment la restauratrice avec qui on travaille depuis longtemps. Et donc on a fait ce qu'on appelle un chantier école, donc les étudiantes qui étaient en deuxième année à ce moment-là, avec leurs professeurs, leurs intervenants, ont travaillé sur la restauration de cette partie-là, puisqu'il y avait une grande partie des moteurs, des marteaux qui ne fonctionnaient plus à force d'être activés. C'est justement toute la question en termes d'œuvres contemporaines, qui, alors là, ça date de 1975, mais qui utilisent des matériaux divers, composites, et notamment, comme ici, des choses qui sont électriques, électromécaniques, qui évidemment s'usent, qui sont faites pour être activées, mais qui évidemment sont fragiles aussi. Et donc toute la question, quand on fait le choix de pouvoir maintenir l'œuvre activée, que les gens puissent l'activer comme je l'ai fait, de trouver le bon équilibre entre la préservation, la conservation de l'œuvre et en même temps son activation. Donc là, dans le premier accrochage jusqu'en 2021, au-delà de la présentation qui était différente, en fait, l'œuvre se déclenchait par un détecteur de mouvement. Donc, dès qu'on passait devant, ça activait l'œuvre. Et donc, en période de forte affluence comme l'été, elle était tout le temps sollicitée pendant les heures d'ouverture. Donc, pendant le chantier école, la personne qui encadrait notamment cette partie électromécanique et qui intervient maintenant pour nos restaurations dans ce domaine-là, ça a été un échange de bons procédés, le choix qui a été fait, qui était déjà expérimenté pour l'exposition, c'est de l'activer directement, donc comme je l'ai fait là, avec un bouton qui déclenche les moteurs et donc les marteaux. Mais là, par exemple, maintenant que je l'ai activé, là, si j'appuie, elle ne se déclenche pas. Pendant presque 10 minutes, en fait, là, si on appuie, ça ne se déclenche pas, ce qui permet de préserver l'œuvre, qu'elle ne soit pas tout le temps sollicitée et en même temps qu'elle fonctionne régulièrement pendant nos heures d'ouverture. Voilà.
Il faut être confiant au marteau pour faire ça.
Absolument. Voilà, c'est un bon résumé. Bien vu. Je crois que vous êtes le premier qui a fait ce jeu de mots, qui a bien vu, et je crois que même j'y avais pas pensé.
La description, donc les marteaux,
voilà, c'est ça. Il y a des portières de voiture, donc qui, pour les plus récentes, datent, qui ne peuvent pas dater au-delà de 75, puisque cette partie-là date de 1975, donc de différentes couleurs, avec des gros boîtiers rouges, on va dire, qui contiennent des moteurs, et à ces boîtiers sont accrochés des marteaux, et donc il y a, quand on les active, le moteur entraîne un mécanisme qui fait un mouvement rotatif et qui entraîne le marteau qui vient frapper sur la portière de voiture et qui, en fait, est aussi une dimension sonore, musicale. Il y a un côté orchestral aussi, il y a un rythme qui est fait. Et l'œuvre s'appelle Fandango, qui est le nom d'une musique, d'une danse, entre autres. Donc, il renvoie aussi à cet aspect rythmique et il y a tout un tas de thèmes aussi dans le travail de Wolf Bochtel. Et on retrouve le violon sur lequel il jouait pendant cette première partie de l'œuvre, cette installation. On le voit derrière les portières. Là, on passe au minimalisme. Alors, la section précédente, la thématique, c'est la présence, avec des artistes qui ont eu des œuvres très fortes, très chargées, très politiquement aussi. Et là, le minimalisme autour de deux artistes, le français Robert Filliou et l'américain Georges Brecht, qui ont c'est très tôt parti de Fluxus, et qui ensemble, quelque temps, ont eu un lieu comme un atelier boutique près de Nice, à Villefranche-sur-Mer, un lieu qui avait un joli nom, qui s'appelait la Cédille qui sourit, qui était voilà, à mi-chemin entre l'atelier d'artiste et la boutique, qui était fermée souvent, ouverte quand ils le souhaitaient. Et en fait, parmi les nouvelles œuvres, les nouvelles archives qu'on présente depuis la réouverture en 2022, Ben Vautier nous a prêté. Il a toutes les archives de ce lieu, enfin tous les documents, tous les objets qui étaient dans cet endroit. Donc là, ce qui est présenté, c'est qu'une petite partie, le reste est dans nos réserves. Voilà, tout un tas d'affiches, d'objets, là, il y a l'armoire à pharmacie. Voilà, donc il y a une dimension aussi dans toute la collection, il y a beaucoup d'objets qui sont des objets d'archives aussi, que ce soit des objets, des documents écrits, des documents vidéo, etc. Donc l'aspect documentaire est extrêmement important également. Et on retrouve, on parlait des jeux de mots, des blagues sur le fonctionnement de certains objets dans la salle dédiée à l'art amusement, comme la petite boîte qu'on ouvre et qu'on ferme indéfiniment. Là, c'est cette petite robe donc, de George Brecht, c'est pareil, une phrase écrite à l'avant et une autre à l'arrière de la robe. Et c'est aussi, je voulais la décrire, c'est finalement quelque chose d'infini. Puisque, alors, sur l'avant de la robe, donc c'est en anglais, il y a écrit « Dans mon dos, il y a un mensonge ». Et donc, si on va voir ce qui est écrit dans le dos de la robe, il y a écrit « Sur ma poitrine, il y a la vérité ». Donc, si la vérité, c'est le mensonge, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ? Voilà, on peut se poser la question. En tout cas, on est là, voilà, Ben a créé le Centre mondial du questionnement ici à la Fondation du Doute. C'est le genre d'objet ou de blague autour desquels on peut se questionner éternellement, parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas toujours de réponse, et ça, c'est très Fluxus.
Marc,
je te laisse trouver des blagues, peut-être que tu pourrais travailler ici, toi, à faire des blagues.
Et là, on retrouve le jeu, en tout cas. Je vais vous l'activer. Alors, c'est visuel, hein, mais je vais la décrire. C'est une œuvre qui aurait tout à fait sa place, comme je disais tout à l'heure, dans la salle Art Amusement au deuxième étage, qui est une œuvre qui date des débuts de Fluxus, elle date de 1962, de Robert Filliou. Alors, il y a eu plusieurs versions en anglais, c'est une version refaite en français, mais qui s'appelle Danse-poème aléatoire collectif, qui est comme un grand tableau avec deux roues de vélo, deux roues de bicyclette, qui sont un clin d'œil à Marcel Duchamp, qui sont accrochées. Sur les roues de bicyclette, il y a un axe noir qui forme comme trois flèches. Tout autour des roues, il y a des mots, des morceaux de phrases de différentes couleurs. Et en dessous, au-dessous de chaque roue, il y a la règle du jeu, de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut activer avec chaque roue. Donc sous la roue de gauche, il y a écrit « lire noir, rouge, jaune ». Sous celle de droite, « lire bleu, vert, violet », puisque les mots sont à chaque fois écrits de trois couleurs différentes. Et donc, en suivant la règle du jeu et en lisant dans l'ordre des couleurs, ça fait une phrase. Une fois qu'on a tourné la roue, on lit les mots qui sont indiqués par les flèches des roues. Et donc, le titre de l'œuvre évoque la danse, donc le mouvement, le poème, les mots, l'aléatoire. Donc, le hasard, c'est vraiment copié sur les jeux de hasard, jeux de casino, jeux télévisés. Elle date de 1962, c'est le début d'émissions télévisées comme La Roue de la Fortune, par exemple, qui apparaissent aux États-Unis, qui arriveront en Europe après. Et collectif, parce que voilà, on peut y jouer à plusieurs. Enfin, c'est surtout que je vais activer les roues et vous pouvez jouer ensemble si vous souhaitez. Donc, par exemple, la roue de gauche.
Oui,
donc je vais l'arrêter parce qu'elle peut mettre du temps à s'arrêter toute seule, mais par exemple, voilà, j'aime bien l'arrêter sur cette phrase. Donc si je suis la règle du jeu, noir, rouge, jaune, les mots dans l'ordre, ça donne la phrase suivante. Fais claquer ta langue. Donc par exemple, quand j'ai une classe de 25 élèves, voilà, on fait un concert collectif de claquements de langue. Ou alors, celle-ci nous indique « siffle un chant d'oiseau ». La suivante « imite un animal à haute voix », etc. Voilà, donc là, cette roue propose des actions vraiment sonores à réaliser avec la voix. La roue de droite, c'est un petit peu différent, les actions sont différentes. Voilà, exactement, ce sont des actions plutôt physiques ici, où tout le corps va être sollicité, pas seulement la voix. Et donc là, on va lire dans l'ordre bleu, vert, violet. Donc, par exemple, la première, avec des petits décalages hein, des fois, c'est « saute sur place plusieurs fois ». Ensuite, on peut avoir « tourne les bras au-dessus de la tête ». Celle-ci, je l'aime bien, parce qu'elle peut être un peu difficile. « Touche les pieds, jambes tendues ». Donc quand je le fais avec les enfants, voilà, ils essayent. On peut faire debout, on peut le faire assis. Mais ce que j'aime bien leur dire, c'est que donc, s'ils n'arrivent pas à toucher leurs jambes en les gardant tendues, toucher leurs pieds, pardon, c'est que c'est un jeu. Alors il y a la règle du jeu et il y a toujours la tentation, hein, c'est la vie, de tricher. Et que dans ce jeu, en fait, parfois on peut tricher tout en respectant la règle du jeu. Puisque par exemple, là, je leur dis qu'il y a écrit « touche les pieds, jambes tendues », mais il n'y a pas écrit « touche tes pieds ». Donc par exemple, s'ils gardent les jambes tendues et qu'ils touchent les pieds de leur voisin, de leur voisine, bah, ils réussissent quand même le défi qui est proposé. Donc on peut toujours voilà, s'amuser comme ça, aussi avec ce qui est proposé. Voilà, mets-toi sur le dos et pédale, sautille sur un pied en pivotant, etc. Et donc là, c'est exactement comme je vous l'expliquais avec la table de ping-pong. C'est une proposition d'un artiste qui a copié, qui s'est inspiré de jeux de hasard, mais qui peut aussi nous-mêmes nous inspirer. Et on peut très bien, tout le monde peut inventer une version de ce jeu. Voilà, c'est finalement infini. On peut toujours en inventer autant qu'on veut. Et on arrive dans la dernière section, internationalisme. Après, il reste un espace qui est un espace de projection, de vidéos, notamment autour des expositions qu'on a faites ici avec les artistes Fluxus ou d'autres archives. Et cette dernière thématique, internationalisme, nous rappelle d'une part que Fluxus était international, mais s'intéresse surtout à une forme d'art que Fluxus n'a pas inventée, puisque des artistes le pratiquaient déjà au début du XXe siècle, mais qu'ils ont beaucoup, beaucoup développé et popularisé, qu'ils ont beaucoup pratiqué, qu'on appelle le mail art, art postal en français. Mais ici, il serait qu'on garde ce terme en anglais, puisqu'il a été beaucoup aussi développé à New York, avec les débuts de Fluxus, parce qu'il y a une école d'art postal, de mail art, qui a existé quelques temps. Et l'art postal, en gros, que chacune d'entre nous a peut-être déjà expérimenté sans le savoir, c'est l'idée de laisser libre cours à sa créativité, justement, on y revient, à son imagination, autour de tous les supports que l'on peut envoyer par la poste, de la carte postale à la lettre, au colis, etc. Et donc, si on dessine, on fait un collage, etc., qu'on fabrique une enveloppe, tout ça, c'est de l'art postal. Et en fait, Fluxus a utilisé ce moyen, l'art postal, donc voilà, je rappelle qu'on est à plus de 60 ans, évidemment Internet n'existe pas encore, comme un moyen aussi d'échanger à une échelle plus large, internationale notamment, en passant par des biais pour éviter les moyens plus classiques, plus institutionnels, et donc de s'envoyer des œuvres, de se proposer des formes de jeux comme ça à une échelle mondiale parfois, et donc de s'envoyer tout un tas de choses comme ça par la poste, et de créer aussi des petits objets en lien avec la poste. Donc il y a une collection de tampons de Ben, par exemple, ici, avec tout un tas de messages. Il y a un artiste américain qui s'appelait Robert Watts, qui a créé une Fluxpost, une poste Fluxus, et notamment toutes les planches de timbres que vous voyez, si vous allez voir de près, sont comme des vrais timbres, il y a le même principe de découpage, mais dont il a créé toutes les images et les planches, et qu'il a mis en circulation comme des vrais timbres pour envoyer des choses aux États-Unis. Donc, vous voyez, on est toujours comme ça dans cette idée de mélanger l'art, la créativité et des choses de la vie quotidienne, et de plus faire de distinction forcément entre les deux. Et donc il y a un espace à destination des visiteurs individuels pour créer à partir de... Il y a des petits tampons dont Ben avait créé les messages pour cet atelier, notamment un tampon qui vous dit « je suis timbré », voilà, et le deuxième qui dit « je m'en tamponne », donc on reste dans les jeux de mots autour de la poste. Et surtout, depuis 2013, donc on travaille en partenariat avec la poste, et Ben a créé tout un tas de cartes postales qui sont proposées, enfin qu'on donne aux visiteurs, et donc qu'ils peuvent utiliser ici, et qu'on peut soit garder, exposer ou envoyer par la poste, notamment d'ici. Voilà, on a cette boîte aux lettres en prêt, et qu'on récupère le courrier et c'est envoyé. Et donc les cartes sont pré-timbrées. Voilà. Donc ça a toujours été, voilà, dès le début, c'était une volonté de Ben. Cet espace existe depuis le début, donc il était un peu différent dans le premier accrochage, mais Ben souhaitait vraiment qu'il y ait cet espace d'atelier. Et comme on le disait au tout début de l'entretien, pour qu'on reste toujours dans l'interactivité, que les gens vivent une expérience aussi en venant ici, qu'on ne soit pas uniquement dans l'observation d'œuvres d'art.
Ah bon, alors je t'ai fait marcher.
Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère.
Les rencontres d'Elios, l'émission de l'hôpital de jour de la clinique de Sommery.
Rencontre des Dios.
Avec Studio Zef.
Je vais bien, tout va bien.